Rebonjour à tous. Alors vous pouvez ouvrir, enfin laisser la Bible ouverte en tout cas, j'ose espérer qu'elle était déjà ouverte, dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 4, et nous lirons les versets 7 à 19, ça se situe à la page 801 des Bibles blanches comme celle-ci. Il y a des Bibles, je rappelle juste à gros caractères à côté de moi, n'hésitez pas à vous lever pour en prendre une s'il y en a qui en ont besoin. Sinon, ça serait difficile de lire si vous ne voyez pas les lettres. Donc 1 Pierre 4, les versets 7 à 19. On continue notre parcours dans la première épître de Pierre. Et vous pouvez suivre le plan de la prédication sur le petit livret. Et il y a aussi des stylos si vous voulez écrire, prendre des notes pour mieux retenir. Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Alors ces paroles peut-être vous disent quelque chose, elles sont issues d'une chanson de Natacha Saint-Pierre, de Pascal Obispo, alors que ces deux chanteurs relèvent ce que différentes personnes feraient certainement s'ils devaient mourir demain. Tout au long de la chanson, ils affirment que eux, ils s'aimeraient l'un et l'autre. Et nous, ce matin, si nous savions que la fin était proche, si on devait mourir demain, ou si Jésus devait revenir, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Plutôt que de voir ce que Pascal Obispo et Natacha Saint-Pierre en pensent, voyons ce que Dieu en pense par le texte que Pierre a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit dans 1 Pierre 4, les versets 7 à 19. Vous pouvez suivre avec moi, je lis ce passage. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Alors si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? La fin est proche, donc vivez pour Christ. Voilà ce que Pierre nous dit ce matin, la fin est proche, donc vivez pour Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien c'est ce qu'on va voir tout au long de cette prédication. La fin est proche, donc vivez pour Christ. Premièrement, dans l'Église, au service les uns des autres dans les versets 7 à 11. Deuxièmement, dans l'épreuve en témoin heureux intègre de l'Éternel dans les versets 12 à 18. Et puis, troisièmement, dans la confiance dans le fidèle Créateur pour conclure au verset 19. Et alors que nous avons vu depuis ces dernières semaines que nous sommes des étrangers élus, appelés à vivre pour refléter le Seigneur, à proclamer les louanges de Dieu, on se l'a encore rappelé ce matin, dans l'Église, on est appelé à le faire, mais aussi au milieu des non-croyants, dans la facilité, mais aussi dans l'adversité, malgré les calomnies dont on peut être victime, dans le foyer, mais aussi parmi nos ennemis. Et la semaine dernière, nous avons été encouragés à suivre Jésus en poursuivant la volonté de Dieu, même si on souffre, et se souvenant bien que Jésus est le substitut, le vainqueur, l'exemple parfait. Aujourd'hui, on va voir que la fin est proche et que nous devons donc vivre en conséquence de cela. La fin est proche, donc vive pour Christ, premièrement dans l'Église, au service les uns des autres, dans les versets 7 à 11. Vous pouvez le suivre sur le plan. Je relis le verset 7. La première partie, la fin de toute chose est proche. On arrive vers la fin. On arrive à l'aboutissement. On est dans le money time. Je ne sais pas si vous connaissez cela. Le money time en basket, c'est le moment où tout se joue. Le moment crucial, la période qui rapporte gros, particulièrement à la fin du match, quand les deux équipes, c'est assez serré. Là, on est dans le money time. Ici, on est dans le money time. Alors, tout est déjà joué avec Jésus-Christ, mais le moment est encore crucial. Le moment est encore crucial, c'est le moment de continuer à s'activer, de ne pas se relâcher. Et c'est ce que Pierre va nous dire maintenant. Regardez dans la deuxième partie du verset 7. « Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. » Alors qu'à l'approche de la fin, Pierre aurait pu demander de s'activer pour résoudre les derniers problèmes, finir à temps les derniers objectifs, peut-être qu'on s'était fixé, les objectifs du mois, profiter de la famille, profitez-en, c'est la fin, ça arrive. Non, qu'est-ce que dit Pierre ? Il est question avant toute chose de prier, montrant notre dépendance au Seigneur de l'univers, déclarant notre confiance dans notre Dieu, notre Rédempteur sur qui, on l'avait vu dans le chapitre 1, repose notre foi et notre espérance à la fin du chapitre 1. Pierre exhorte les chrétiens ici à ne surtout pas se laisser distraire, mais au contraire à prier. Être discipliné afin d'être disponible pour prier le Dieu Tout-Puissant, notre Père, qui est aussi notre juge, on l'avait aussi vu déjà précédemment dans la lettre. Pour bien finir, commencez par prier. Et continuez par, et on va voir trois choses, regardez d'abord au verset 8, continuez par avoir un amour ardent les uns pour les autres. Ce n'est pas la première fois que Pierre nous exhorte à nous aimer les uns les autres ardemment. Dans le chapitre 1, au verset 22, il était question de cela, mais ici, aimer ardemment les uns les autres va permettre de couvrir une multitude de péchés. Dans la deuxième partie du verset 8. Mais qu'est-ce que Pierre entend par là ? C'est mystérieux. En fait, il fait écho à Proverbe 10, verset 12, où il était question de la haine qui fait surgir des conflits les uns avec les autres, mais de l'amour qui, de son côté, dresse une barrière contre le mal et contre le péché. Par exemple, si je me mets à critiquer un frère ou une sœur, ici, dans l'église, cela ne risque pas de favoriser l'amour envers cette personne auprès des autres, mais bien au contraire. Si je me mets en colère contre un frère, contre une sœur, parce que je juge qu'il m'a mal parlé ou alors il m'a jugé un peu trop vite, eh bien ça ne va pas aider non plus à pardonner, bien au contraire. Par contre, si au lieu de médire, je bénis, ça va susciter l'amour. Si je parle sincèrement avec amour à mon frère ou à ma sœur que je juge m'avoir mal parlé ou jugé trop vite, ça va susciter l'amour qui va me pousser à le pardonner. Voilà en quoi aimer les autres couvre une foule de péchés. Bien, c'est des croyants qui s'aiment les uns les autres, qui vont avoir un impact positif les uns sur les autres et vont se pousser à se pardonner les uns les autres. Vivre pour Christ, c'est s'aimer ardemment les uns les autres. Et Pierre n'a pas fini de parler des interactions les uns vis-à-vis des autres dans la communauté chrétienne. On a vu, commencez par prier, continuez par vous aimer les uns les autres et continuez maintenant par exercer l'hospitalité les uns envers les autres au verset 9. De bonne volonté, avec sincérité, sans se plaindre, être accueillant les uns avec les autres, avec plaisir. Alors oui, l'accueil peut être un sacrifice. Ça nous coûte, surtout dans notre culture occidentale, où on aime notre confort personnel, mais une maison ouverte pour les autres est un bon signe de l'Évangile, qui nous pousse à combattre notre égocentrisme, notre propre confort, pour se mettre au service des autres. Qui n'a jamais été, ici dans cette pièce, au bénéfice de personnes hospitalières qui vous ont béni par leur accueil bienveillant? Et si certains peuvent répondre oui, eh bien j'en suis triste que vous n'ayez pas eu cette grâce de pouvoir bénéficier de personnes hospitalières qui vous ont béni par leur accueil bienveillant. En tant que résident temporaire, en tant qu'étranger sur terre, est-ce que c'est pas bénéfique de vivre, d'être au bénéfice de s'inviter les uns les autres, de vivre l'accueil les uns envers les autres ? Alors qu'on est étranger ici, qu'on n'est pas dans notre vraie patrie. Vivre pour Christ, c'est exercer l'hospitalité les uns envers les autres au sein de la communauté. Alors, à la fin de notre rencontre, pourquoi ne pas proposer à l'un ou l'autre de venir chez vous pour partager un repas ou pour partager un goûter plus modestement, en se souvenant bien que l'important dans l'hospitalité, ce n'est pas les bons mets que vous préparez, ce n'est pas se plier en quatre pour cela, mais c'est l'accueil que vous réservez à ceux que vous accueillez. Pourquoi ne pas faire cela à la fin de notre rencontre? Et puis, on a vu donc, on a commencé par prier alors que la fin est proche, on a continué, on veut s'aimer ardemment les uns les autres dans l'Église, on veut exercer l'hospitalité au sein de la communauté, et maintenant on veut, troisièmement, mettre nos dons au service des autres dans les versets 10 à 11. Au sein de l'Église, nous sommes des intendants appelés à servir les autres. Est-ce qu'on croit cela? Eh bien, en tout cas, regardez au verset 10 ce que Pierre nous dit, je le lis. « Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Chacun d'entre nous, si nous sommes chrétiens, nous avons bénéficié de la part du Seigneur d'au moins un don. C'est un privilège, mais c'est aussi une responsabilité. Et nous sommes les gestionnaires ou les économes de ce que Dieu nous a confié, mais le don que l'on reçoit du Seigneur n'est pas fait pour notre propre contentement, ni pour notre propre gloire, mais bien au service des autres. Alors, de quel don est-ce que parle Pierre ? Première partie du verset 11, regardez. « Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. » Et je m'arrête ici pour la lecture du verset. En fait, le but de Pierre, ici, dans ce passage, n'est pas de s'étaler sur la diversité des dons. Il y a d'autres passages où il va en parler, où on aura l'occasion aussi d'en parler, nous, en Église. Mais ici, il est très bref et il décrit deux types de dons, ceux qui relèvent du discours, si quelqu'un parle, et puis ceux qui relèvent des actions concrètes, si quelqu'un accomplit un service. Et dans ces deux types de dons, soyons au service des autres. Comment ? Eh bien, en utilisant les dons de manière convenable, comme Dieu aimerait qu'on les utilise. Par exemple, un prédicateur, pour le premier type de don, va prêcher les paroles révélées de Dieu, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu et son cœur, l'Évangile. Et s'il ne le fait pas, eh bien, je vous invite à aller en discuter avec les anciens, avec les responsables de l'Église, les autres responsables de l'Église. Un prédicateur qui prêche la parole de Dieu, et j'espère c'est ce qu'on fait ici, à l'église de la Garenne, et un prédicateur qui ne prêche pas ses propres idées, se met au service des autres parce qu'il explique la Bible aux uns et aux autres, leur permettant de mieux saisir qui est Jésus-Christ, leur permettant de mieux saisir qui ils sont vraiment, qui on est vraiment, qui on est appelé à être également. Et puis, deuxièmement, comment, pour ce deuxième type de don, les actions concrètes, une personne douée pour le service pratique des repas, par exemple, servira humblement, avec amour pour les autres et pour le Seigneur, ne désirant pas se mettre en avant, mais au contraire, désirant que les autres bénéficient au mieux des repas, ce qui sera un témoignage de l'Évangile. Par exemple, lors de la soirée de bienvenue que l'Église a organisée dernièrement, une équipe de service s'est mise en place. Et ceux qui ont préparé le repas et qui ont servi aux tables ont permis aux invités de bénéficier de la soirée, au mieux, d'être disposés pour écouter les interventions les uns des autres, disposés aussi pour écouter l'Évangile qui a été présenté. Sans eux, est-ce qu'on pourrait dire qu'il en aurait été ainsi ? Je ne suis pas sûr. Ils ont mis leurs dons au service des autres, comptant sur Dieu et pour un but précis. Si en arrivant ici, ce matin, vous n'auriez pas vu de chaise ici, si en arrivant ici ce matin, les toiles d'araignée pendaient ici juste devant mon visage, est-ce que vous seriez disposé à écouter la parole du Seigneur ? Ou est-ce que votre attention serait distraite, simplement. Ces services-là, faits dans un but précis. Regardez deuxième partie du verset 11. « Afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. » En fait, en mettant au service des autres le don qu'on reçoit du Seigneur, en le faisant avec Christ au centre, on ne cherche pas notre propre gloire, pardon, mais la gloire de Dieu, car c'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ce que nous dit Pierre. Vivre pour Christ, c'est donc mettre nos dons au service des autres et pour la gloire de Dieu. Alors que la fin est proche, la priorité pour Pierre, c'est de vivre pour Christ. Vivre pour Christ, c'est-à-dire de faire le bien au sein de l'Église. Mais pas uniquement dans l'Église. Et Pierre, maintenant, va inciter les chrétiens à vivre pour Christ dans l'épreuve. Alors regardez, c'est la deuxième partie de la prédication, dans l'épreuve, en témoin heureux, intègre de l'Éternel, dans les versets 12 à 18. Et je lis les versets 12. Le verset 12. Et les premiers mots du verset 13. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire. » Et on m'arrête ici. Pierre avait déjà évoqué la souffrance à de nombreuses reprises dans cette lettre. Au chapitre 1, au chapitre 2, au chapitre 3, en fait, à chaque chapitre, et au chapitre 4, ici également. Les chrétiens à qui il parle, en ce moment, sont en train de souffrir. Et qu'est-ce que Pierre trouve à dire, alors qu'ils sont en train de souffrir ? Ne soyez pas surpris. C'est normal que vous souffriez, que vous soyez éprouvés. C'est pas étrange. Sûrement que les chrétiens, pourtant, se posaient des questions. Si nous sommes chrétiens, attachés à Dieu le Tout-Puissant, pourquoi est-ce qu'on souffre autant ? Et peut-être c'est une question qu'on peut, certains d'entre vous se posent ce matin. Est-ce qu'on est vraiment attaché à la véritable grâce de Dieu ? Pierre a écrit cette lettre justement pour attester qu'ils sont bien attachés à la véritable grâce de Dieu, dans le verset 12 du chapitre 5, on voit cela. Et encore ici, alors que la fin est proche, on est dans le money time, Pierre les exhorte à vivre pour Christ, encore, dans l'épreuve. Et cela implique donc de se réjouir, verset 13. Mais lorsqu'on se fait calomnier, lorsqu'on se fait insulter, lorsqu'on se fait maltraiter, comment est-ce qu'il est possible de se réjouir ? Pierre, sois sérieux. Comment est-ce qu'il est possible ? Mais Pierre avait déjà évoqué la joie en lien avec la souffrance. Vous vous rappelez dans le chapitre 1, les versets 6 et 7. Et qu'est-ce qui procurait la joie pour ces chrétiens éprouvés ? C'était le salut certain en Jésus-Christ. C'est ça qui provoquait leur joie. Et qu'est-ce qui va faire la joie des chrétiens éprouvés ici ? Eh bien, regardez au verset 13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. » Afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Incroyable, Pierre ! Qu'est-ce que tu nous dis là ? La part qu'ils prennent aux souffrances de Christ et la joie à venir, voilà. Voilà ce qui va faire qu'ils doivent se réjouir. Réjouissez-vous de la part que vous prenez aux souffrances de votre Messie, de votre Sauveur, de votre Seigneur. Alors, non pas qu'il n'y ait quelque chose à rajouter à ce que Christ a fait. Christ lui-même a souffert une fois pour toutes, pour les péchés. Vous l'avez sur la première partie de votre bulletin, et puis dans le chapitre 3, verset 18, « Afin notamment de sauver ceux qui placent toute leur confiance en lui, on l'a vu la semaine dernière, mais aujourd'hui, au sein même de l'épreuve, ils peuvent se réjouir parce que c'est une grâce de marcher dans les traces de Christ, leur sauveur, de souffrir pour lui et pour l'évangile. » Et on avait déjà vu que c'était une grâce. Au chapitre 2, c'était la grâce de souffrir pour Christ. Et la joie est non seulement ici présente au sein des épreuves, mais elle est aussi à venir. Parce que lorsque Jésus sera venu, les chrétiens qui ont persévéré en Christ, qui ont souffert pour l'évangile, seront dans la joie d'être avec leur Sauveur, et ça pour l'éternité. Imaginez-vous cela. Imaginez-vous la vie comme une pelote de laine. Une pelote de laine, et vous déroulez juste le début de la pelote de laine, et vous considérez que ce tout début, là, c'est la vie sur terre. Avec ses épreuves, ses douleurs, ses insultes à cause du nom de Christ, on va le voir tout à l'heure. Et peut-être cette période, elle est éprouvante, elle est des plus éprouvantes. Et peut-être pour vous plus que pour d'autres, vous avez l'impression. Mais imaginez-vous maintenant que ce qui vous attend, c'est tout le reste de la pelote de laine. Vous la déroulez ici et vous ne voyez pas le bout de la pelote de laine. Vous voyez une pelote de laine à l'infini. Et on peut se réjouir de cela, de ce que dans cette petite période de temps, ce laps de temps, certes difficile, peut-être 70, 80 ans, peut-être 100 ans de grandes difficultés, ensuite, il va y avoir cette éternité avec Jésus, votre Sauveur, votre Seigneur, la joie et l'allégresse, lorsque Jésus va revenir. Et dans ce temps-là, de marcher en suivant les pas de Christ qui a vécu 33 ans et quelques, et qui a vécu une vie de tout repos, qui a souffert une fois pour toutes pour les péchés, pour qu'on puisse être avec le Seigneur pour l'éternité. C'est ce qui va faire la joie des chrétiens persécutés. Et prouver ce qui peut faire notre joie ce matin de si on est d'une manière ou d'une autre maltraité parce qu'on est témoin de Christ. Ici, Pierre parle à des chrétiens qui sont notamment insultés parce qu'ils sont témoins de Christ. Et on voit ça dans le verset 14, la première partie du verset 14. Comment est-ce que nous, on réagirait à ces insultes ? Pierre va à contre-courant et il exhorte à avoir une attitude juste et pertinente, fondée sur l'espérance en Christ. Des versets 14, je le lis. « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. » Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Je m'arrête là dans ce verset, vous avez une part de verset entre crochets. Dans les, on va pas s'étaler dessus, mais dans les manuscrits les plus anciens, les plus fiables, ces mots-là ne sont pas dans les manuscrits les plus anciens. Voilà pourquoi on met de côté, mais ils ne vont aucun cas en contraire au sens biblique. En tout cas, si vous êtes insulté à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Les chrétiens insultés parce qu'ils suivent Christ peuvent être heureux parce que les souffrances pour Christ deviennent un sceau que le Seigneur appose sur les siens. Et cela prouve qu'ils sont bien attachés à la véritable grâce de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit qui repose sur eux, ils appartiennent à Dieu une fois pour toutes. Non pas que quelqu'un qui ne souffre pas pour Christ n'est pas chrétien, mais la souffrance pour Christ est un signe de plus qu'on fait partie du peuple de Dieu. Et voilà pourquoi les chrétiens qui souffrent peuvent être heureux, mais doivent aussi être intègres. Dans les versets 15 et 16 que je lis, « Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » Ne faites pas le mal, mais vivez pour Christ. Dans l'épreuve, restez attachés à Christ, même si vous devez vous faire insulter. Les chrétiens ne sont pas appelés à être joyeux dans la souffrance s'ils souffrent parce qu'ils ont commis quelque chose de mal. Verset 15. Les chrétiens sont appelés à se réjouir dans la souffrance s'ils souffrent parce qu'ils sont ambassadeurs de Christ. Au verset 16. Et dans le verset 16, il est même question de ne pas avoir honte, mais de rendre gloire à Dieu à cause de cela. Souffrir pour Christ, c'est pas la honte, mais c'est l'honneur. C'est pas la honte, mais c'est l'honneur. Et c'est Jésus lui-même qui a incarné ce lien entre la souffrance et l'honneur. Il a souffert et c'est pour nous un honneur, parce qu'on peut être pardonné de nos péchés. Si Christ n'était pas mort à la croix, certes, on n'aurait pas à souffrir pour Christ, mais on serait aussi condamné à mort et sous la colère de Dieu lors du jugement dernier et pour l'éternité. Et l'honneur pour Christ, c'est que Christ est ressuscité, glorifié en retournant vers Dieu, son Père, qui lui a remis, on l'a vu la semaine dernière au verset 22 du chapitre 3, toute autorité, toute puissance. Donc pour nous, souffrir pour Christ, c'est une occasion de glorifier Dieu. Souffrir pour Christ, c'est une occasion de glorifier Dieu, c'est un badge d'honneur que l'on a, comme dit Karen Jobs. C'est un badge d'honneur que de souffrir pour Christ. Le chrétien est appelé à vivre pour Christ au milieu des épreuves qui sont causées par le fait même d'appartenir à Jésus-Christ. Et une autre raison de vivre pour Christ dans l'épreuve, c'est que, et ça va être peut-être curieux, mais les persécutions montrent que le jugement final est déjà en marche. La fin est proche. Le jugement final est déjà en marche. Regardez si vous ne me croyez pas, versets 17 et 18. En effet, c'est le moment où le jugement commence. Et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Qu'est-ce que nous dit Pierre ici? Le jugement, qu'est-ce que c'est le jugement? Qu'est-ce qu'il fait? Il distingue, il sépare, il distingue les innocents et les coupables. Ici, le jugement clarifie ce qui est en train de se passer. D'un côté, il y a les persécutés, les chrétiens qui vivent pour Christ et qui le suivent, les innocents. Et de l'autre côté, il y a les persécuteurs de Christ, donc les persécuteurs aussi des chrétiens. Les rebelles à l'évangile. Et dans le jugement, il y a donc ceux qui sont approuvés et ceux qui sont condamnés. En fait, ce qui est en train de se passer lorsque les chrétiens sont persécutés, c'est que d'une certaine manière, le jugement est déjà en marche. Le jugement commence. Les chrétiens font partie de ceux qui sont sauvés, innocentés par Christ, pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais par Christ, mais qui subissent des persécutions à cause de Christ parce qu'ils marchent dans les voies de Christ. Par contre, les rebelles à Dieu qui persécutent les croyants vont être, de leur côté, condamnés pour l'éternité s'ils ne se repentent pas. Et on le sait, il y a Portes Ouvertes qui va venir, premier jeudi du mois, et on va entendre cela, des chrétiens qui se font persécuter, qui sont dans cette catégorie de chrétiens persécutés, victorieux, mais persécutés, et qui vivent des outrages à cause du nom de Christ. Et puis, de l'autre côté, des persécuteurs, on veut aussi prier pour eux, qu'ils se tournent vers Christ, et qu'ils changent de camp tant que c'est encore le cas, et qu'ils passent de persécuteurs à peut-être persécutés dans leur pays, mais ce qui serait la plus belle des choses que de passer, savoir qu'on passera l'éternité avec le Sauveur. Mais clarifions bien les choses encore ce matin. Si certains ne persécutent pas les chrétiens ici, dans cette salle, donc qui n'insultent pas particulièrement les chrétiens, ne profèrent pas forcément de calomnie ni de critique envers les chrétiens, et que vous êtes tenté de vous dire que le jugement ne vous concerne pas, vous avez tort. Ne pas persécuter les chrétiens ne veut pas dire être chrétien. Le pacifisme n'est pas une troisième voie qui fait échapper au jugement dernier. Il n'y a que deux voies, les chrétiens qui ont placé toute leur confiance en Christ et les non-croyants qui sont rebelles à Dieu, qu'ils persécutent ou non les chrétiens. Ça revient au même quant au statut devant Dieu, rebelle à Dieu pour le moment, jugé par Dieu lorsque Jésus reviendra. Alors, laissez-moi vous poser une question, si peut-être certains ici sont dans ce deuxième cas de figure. Qui est Jésus pour vous ? Qui est Jésus pour vous ? Et il est toujours temps d'y répondre par la foi. Et si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas aussi à discuter avec des anciens, des responsables ici de l'Église. Qui est Jésus. Si nous sommes chrétiens ce matin, dans le premier cas de figure, et que d'une manière ou d'une autre nous sommes calomniés, peut-être insultés, critiqués à cause du nom de Christ, cela montre bien que nous sommes sauvés, avec peine, verset 18. Regardez, si le juste est sauvé, avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Alors, non pas que les chrétiens, on n'est pas sûr d'être sauvés, ou que nous allons devoir gagner notre salut, mais nous sommes sauvés avec peine, dans le sens où nous devrons subir des difficultés au travail, à l'école, peut-être dans notre famille, à cause du nom de Christ. Suivre Christ, ça implique naturellement le rejet de ceux qui ne le suivent pas. Mais voilà en quoi nous pouvons être heureux. Ceux qui souffrent maintenant pour Christ seront honorés lorsque Jésus-Christ reviendra. La fin est proche donc. Vivez pour Christ dans l'épreuve, en témoin heureux, intègre de l'Éternel. Et pour conclure, nous pouvons vivre pour Christ dans la confiance au fidèle Créateur, au verset 19 que je lis. Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Pierre ici nous la gerbe. Il exhorte les chrétiens qui souffrent selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire pour Christ, portant la parole de vie, à s'en remettre à lui, à lui faire totalement confiance. Dieu est le fidèle Créateur qui nous donnera notre héritage céleste, la joie éternelle en sa présence, qui nous donnera de persévérer dans les difficultés et les persécutions, de nous présenter devant lui sans avoir honte de la manière dont on a été ambassadeur de Christ sur terre. Et pour cela, Pierre nous exhorte à continuer à faire ce qui est bien. Et faire ce qui est bien, on se l'est déjà rappelé, c'est vivre pour Christ avec tout ce que ça implique. Vivre pour Christ avec tout ce que ça implique dans l'Église, au service les uns des autres, dans l'épreuve, en témoin heureux intègre de l'Éternel, et tout cela dans la confiance dans notre fidèle Créateur. La fin est proche, donc vivons pour Christ. Nous sommes ce matin dans le Money Time. Jésus va bientôt revenir, on ne sait pas quand. Alors, si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Eh bien, que l'on continue de faire ce que l'on veut faire chaque jour, c'est-à-dire vivre pour Christ. Vivre pour Christ. Prions. Seigneur, alors que la fin est proche, que nous savons que Jésus va revenir, même si nous ne savons pas quand cela se passera, nous voulons vivre pour Jésus-Christ. Merci parce qu'entre frères et sœurs, nous pouvons nous aider à cela en nous aimant les uns les autres, exerçant l'hospitalité, mettant nos dons aussi au service des autres. Mais Seigneur, tu vois aussi la difficulté que ça peut être de vivre pour Christ lorsqu'on est insulté, maltraité, d'une manière ou d'une autre, à cause du nom de Christ. Et donne-nous de pouvoir nous réjouir, sachant qu'on marche dans les voies de Jésus, notre Sauveur, et sachant qu'on est persuadé d'être déjà sauvé, d'avoir notre héritage qui nous attend auprès de toi, si on a déjà placé toute notre confiance en toi par ton Fils Jésus-Christ. Merci de ce que nous pouvons, Seigneur, nous réjouir, parce que nous savons que nous sommes entre tes mains, et quoi qu'il arrive, c'est à toi qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Quelques chapitres plus loin, chapitre 4.